Je vous demande de regarder avec moi dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Wow, yes Father. Yes Father. Wow. God is good. God is good. Hey. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de savoir que Dieu est bon. Contrairement à ce que vous pensez, son intention, ce n'est pas de vous tuer, c'est de vous bénir. Ah, yeah. Il veut tuer vos mauvaises habitudes, mais il ne veut pas vous tuer. En Pierre chapitre 2, verset 9, nous sommes en train de parler de l'Ecclésia, l'Église, l'Assemblée en Christ. Une idée divine. Par conséquent, une bonne idée. Dites une bonne idée. L'Église est une bonne idée. Parce que c'est une idée de Dieu. Alléluia. Dans le monde, vous entendez souvent les gens disent « Oui, moi je crois en Dieu, mais je n'aime pas la religion, je n'aime pas les institutions. » Jésus a créé une institution. Elle s'appelle l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église, mon Ecclésia. » L'Ecclésia, l'Assemblée. Il a déclaré que je vais bâtir mon assemblée à moi, qui est différente des assemblées du monde. Alléluia. En groupe d'hommes et de femmes qui sont remplis de mon esprit, qui ont reçu ma vie, qui ont reçu ma vision, qui vont fonctionner comme moi, qui vont penser comme moi, qui vont parler comme moi, qui vont agir comme moi, qui vont être mes agents sur la terre, qui vont saisir ce qui est sur mon cœur et qui vont exécuter ma volonté. Alléluia. Mon ecclésia, mon assemblée. Non pas des individus éparpillés, séparés, qui font leur truc dans leur coin, mais mon assemblée. Une assemblée par nature se rassemble. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens se rassemblent. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, le précédent est clair, les chrétiens se rassemblent, se réunissent. Et pendant qu'ils se réunissent, ils s'organisent pour prier, pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Ils passent du temps dans la communion fraternelle. Et cette assemblée est indissociable du concept même de l'Église. Donc la parole de Dieu nous déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen.
Amen. Un sacerdoce, une nation, un peuple acquis, afin que, aujourd'hui nous allons parler de Missio Dei, la mission de Dieu. Nous allons parler de la mission de l'Église, la fonction de l'Église. Quel est le rôle de l'Église sur la terre? Lorsque Jésus a décidé qu'il allait bâtir son Église, quelle était son intention? Qu'est-ce que cette Église devait faire? Alléluia! Afin que, j'aime les « afin que » dans la parole de Dieu. Les « afin que » nous montrent l'intention de Dieu. Est-ce que vous comprenez que nous sommes sauvés par l'intention de Dieu? Nous sommes rachetés par l'intention de Dieu. Tout ce que nous sommes de bon, c'est parce que Dieu avait l'intention de le faire. Et Dieu a encore d'autres intentions que nous devons découvrir. Et toute notre marche chrétienne, c'est aller de découverte en découverte quant à l'intention de Dieu à notre égard. Et c'est lorsque nous connaissons l'intention de Dieu que nous pouvons maintenant commencer à demander à Dieu de faire ce qu'il a l'intention de faire. Et ça, c'est la prière. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent qu'ils devraient découvrir leurs intentions et ensuite exiger que Dieu accomplisse leurs intentions. Ça, c'est la manipulation. Mais Dieu a des intentions bonnes à notre égard. Et lorsque vous voyez « afin que » vous concernant, prêtez attention pour dire « quelles sont les intentions du Seigneur à mon égard ?» La parole de Dieu nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous avons déjà, nous sommes attardés longuement sur cela, n'est-ce pas? Alléluia, et c'est excitant, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, racheté, mis à part pour Dieu, afin que tout ceci ayant un objectif précis. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est que vous, dites à votre voisin, toi, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'intention de Dieu, c'est de se constituer une assemblée d'hommes et de femmes qui vont annoncer ses vertus. Quelles sont ses vertus, ses excellences, sa magnificence, sa splendeur, sa gloire? Des hommes et des femmes, une assemblée qui sur la terre va continuellement révéler la splendeur de Dieu. Il parle de vous. Alléluia. Des personnes qui, par leur nature même, par leurs actions, vont continuellement manifester la splendeur de Dieu. Afin que vous annonciez les vertus, que vous déclariez, que vous montriez les vertus, les excellences, la grandeur, la bonté, la magnificence, la splendeur, la gloire, tout ce qui est extraordinaire qui est en Dieu, que toute votre existence serve à le montrer. Alléluia, c'est un appel extraordinaire. Et en plus, un petit rappel pour ceux qui auraient vite oublié d'où ils venaient. Parce que ça nous arrive souvent lorsque nous devenons chrétiens. Nous oublions vite d'où nous venons. Nous oublions vite dans quel état nous étions quand Dieu est venu nous chercher. Alléluia. Allez, il leur dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu fait fort, dites Dieu fait fort. Dieu fait fort. Hier à la prière, nous avons décidé que nous allions déclarer les hauts faits de Dieu. Nous sommes témoins des hauts faits de Dieu. Nous devons manifester continuellement les hauts faits de Dieu. Tout ce que nous sommes devrait amener les gens à s'extasier devant le Père. Le but de Dieu pour son Église, la mission de l'Église sur la terre, c'est premièrement d'annoncer les vertus, de montrer les excellences, la grandeur et d'amener la gloire à Dieu par sa nature même et par ses actions. Cela change de notre perception de notre vie. Cela change notre perception de notre vie sur la terre. Rappelez-vous, nous avons regardé dans Tite. Et lorsque nous étions dans Tite, lorsque nous avons parlé de serviteur, du fait de servir le Seigneur, nous avons parlé du fait que Tite chapitre 2, verset 14, en parlant du Seigneur Jésus, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, afin de, alléluia, afin de, quel est le but de Jésus lorsqu'il s'est donné pour nous, nous racheter de toute iniquité et afin de se faire un peuple qui lui appartienne et un peuple purifié par lui et un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Quelle est la mission de l'Église sur la terre? La mission de l'Église sur la terre, c'est amener la gloire à Dieu et c'est de le servir. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de la mission de l'Église, il est important de comprendre que la mission de l'Église, c'est simplement s'insérer dans la mission de Dieu. Dieu avait une mission avant même que l'Église ne vienne à existence. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre en mission. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Et dans tout ce que Dieu fait, il y a une chose première, c'est manifester sa gloire, sa grandeur, sa splendeur, sa magnificence, afin que les hommes voient la grandeur de Dieu. Jésus est venu en mission sur la terre. Jésus est reparti au ciel. Ensuite, Jésus a envoyé le Saint-Esprit en mission sur la terre. Et Jésus a appelé son Église et le Saint-Esprit envoie l'Église en mission sur la terre. Dites alléluia.
Alléluia.
Dites à votre voisin, tu es en mission. Il est important pour nous que nous ayons cette compréhension d'une Église qui est en mission. Et dans ce même passage, dans Tite, c'est plutôt dans Pierre, Il parle du fait que vous êtes étrangers. Au verset 11, 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Dites étrangers. Vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13 parle du fait que tous ces grands hommes et toutes ces grandes femmes de la foi sont considérés comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il est important pour nous de saisir ce qui est sur le cœur de Dieu, pour que nous commencions à fonctionner comme Dieu fonctionne, que nous soyons en harmonie avec lui. Dans le cœur de Dieu, il bâtit une église, et cette église est en mission sur la terre. Dieu établit son assemblée à lui, qui est séparée de l'assemblée du monde. Et cette assemblée qui appartient à Jésus n'appartient plus à cette terre. Elle appartient à Jésus. Elle ne fonctionne plus selon les règles de cette terre. Elle fonctionne selon les règles de Jésus. Elle n'a plus les mêmes objectifs que ceux qui appartiennent à d'autres assemblées. Ses objectifs deviennent les objectifs du Seigneur. Un changement radical de mentalité. Et lorsque nous avons fait l'étude sur le service, je vous ai expliqué, un jour le Seigneur commençait à me parler et il m'a dit qu'il y a beaucoup de ses enfants qui vivent en conflit. Qui vivent en conflit, pourquoi? Qui vivent dans une situation de tension et de conflit. Parce qu'ils ont envie de faire des choses pour le Seigneur. Ils ont envie de plaire à Dieu. Ils ont envie de servir Dieu. Mais ils ont des habitudes qui ne vont pas les aider à servir le Seigneur. Ils ont un style de vie qui ne va pas contribuer à les aider à faire ce qu'ils sont censés faire de leur vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a un style de vie qui correspond au royaume de Dieu. Il y a une façon de penser qui correspond au royaume de Dieu, qui fait que nous devenons des êtres entiers, complètement entiers. Et toute l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de commencer à nous travailler, nous enseigner, nous travailler pour que nous puissions être façonnés et modelés par Jésus. Lorsque la parole de Dieu nous dit que nous sommes censés annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière, que nous sommes appelés à le servir. Ce que nous comprenons par cela, c'est que Dieu a des choses à cœur. Il a des choses qu'il a envie de faire sur la terre. Et ces hommes et ces femmes qui vont constituer son assemblée vont être son outil et sa main et ses agents pour faire ces choses sur la terre. Alléluia. Et ces personnes ne sont plus des gens qui appartiennent à la terre, mais qui appartiennent à Jésus. Sont des personnes qui désormais ont d'autres buts, d'autres objectifs dans la vie. Et lorsque nous voyons la faiblesse et l'inefficacité de l'Église, c'est tout simplement que l'Église est constituée de personnes qui ont les mêmes objectifs que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et donc, qui n'ont pas épousé l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est établir son règne sur la terre, dans le cœur des hommes et dans nos sociétés. Et son église, son ecclésia est appelée à servir d'agent pour l'expression du règne de Dieu sur la terre. Et le règne de Dieu commence avec nous-mêmes. Dans nos vies, dans la vie des autres et dans notre société. Mais la première chose, c'est dans nos vies. La mission de l'église, c'est montrer les excellences de Dieu, d'abord en nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Souvent, nous sommes très impliqués dans ce qui est externe, ce que les gens peuvent voir. Donc, nous allons faire certaines œuvres parce que nous pensons que si les gens voient cela, ils vont croire que les chrétiens sont des gens bien et ils vont vouloir suivre le Seigneur. Mais rappelez-vous dans Hébreux, il nous est dit que nous sommes venus à Sion, au Jérusalem céleste, à la cité du Dieu vivant. Nous sommes venus à des myriades et des myriades d'anges, à l'assemblée des premiers-nés, aux esprits des hommes venus à la perfection. Nous existons dans un monde spirituel. Avant d'exister dans un monde physique. Nous sommes des êtres spirituels, faits en image de Dieu et nés de nouveau. Donc nous fonctionnons dans ce monde spirituel où il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'il nous dit qu'il y a une nuée de témoins Cette nuée de témoins, c'est des chrétiens, des saints, des saints de l'Ancien Testament qui sont déjà au ciel et qui regardent nos vies sur la terre, qui sont témoins de notre marche avec Dieu. Il n'y a pas de séparation dans l'esprit. Physiquement, il y a une séparation, mais dans l'esprit, il n'y a pas de séparation. Donc la première chose, c'est la vie intérieure. La première chose qui glorifie Dieu, c'est ce qui se passe en moi. Dieu règne d'abord en moi avant de régner à travers moi. La mission de l'Église, c'est de servir le Seigneur. Nous comprenons que servir le Seigneur, c'est faire ce qui est primordial sur le cœur de Dieu, c'est-à-dire amener les gens à la connaissance de Dieu. 1 Corinthiens 15 nous parle du fait que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et Christ fait son appel à travers nous. Et à travers nous, Dieu est en train de dire, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous savons qu'il y a ce que nous sommes qui glorifie le Seigneur. Il y a ce que nous faisons en réconciliant les hommes avec Dieu qui glorifie le Seigneur. Mais les deux doivent aller de pair. Alléluia. Donc notre vie intérieure qui n'est pas cachée spirituellement. Spirituellement, ce que vous êtes à l'intérieur est visible. Dans le naturel, vous allez regarder Martine, vous allez trouver que ses cheveux sont longs, ses cheveux sont courts, qu'elle n'est pas bien coiffée, que vous n'aimez pas son maquillage, que décidément il faudra que je lui donne une adresse, et ainsi de suite. Mais quand vous êtes dans l'esprit, vous allez la regarder, vous allez voir s'il y a du péché dans son cœur, s'il y a de l'adultère dans son cœur. Ce ne sont pas des choses cachées. Et de la même façon, les êtres spirituels voient ce qui se passe dans nos vies. La parole de Dieu nous parle de la grandeur de l'Évangile en disant que les anges désirent y plonger leur regard. Et que dans les siècles à venir, que Dieu nous a ressuscités, il nous a rendus vivants. Éphésiens chapitre 2, il nous a rendus vivants. Il nous a installés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes afin de montrer les richesses de sa grâce à travers nous. Et je méditais sur cela et je devenais de plus en plus excitée pour dire franchement, je pourrais représenter n'importe qui, mais j'ai l'honneur et la gloire de représenter Dieu. Non seulement de le représenter, mais d'être tel que les hommes et les femmes et les anges vont l'honorer à cause de ce que je suis. C'est la mission de l'Église sur la terre. Premièrement, parce que nous sommes amenés la gloire à Dieu. Les anges désirent y plonger leur regard. Il n'y a que l'Église qui est égocentrique. Au ciel, tout le monde est théocentrique. Ils sont focalisés sur Dieu. Et l'Église est appelée à être focalisée sur
Dieu.
Alléluia. Et la vraie joie dans la vie chrétienne vient quand on est focalisé sur Dieu.
Amen.
Et vous comprenez, le fait que nous sommes rachetés est une réalité spirituelle. Spirituellement, vous n'êtes plus la même personne que ce que vous étiez avant de venir à Jésus. Et vous avez cette nuée de témoins, les esprits des hommes justes venus à la perfection. Vous avez tout ce monde, tous ces anges qui voient l'œuvre de Dieu dans votre vie, qui sont émerveillés, qui voient cette personne qui vient toute sale spirituellement, pourrie spirituellement, et qui arrive, qui reçoit Jésus et qui est nettoyée. Et les anges disent, waouh, regardez encore, il y en a encore un qui est racheté, encore un qui est racheté, encore un qui est racheté, encore un qui est racheté. Et ils sont là, waouh, il y a de la joie au ciel quand un pécheur vient au salut. Pourquoi? Simplement parce qu'il a fait une prière? Non, parce qu'il y a eu un changement dans l'esprit.
Amen.
Et que ce changement dans l'esprit provoque la joie, provoque la louange, révèle encore la grandeur de Dieu, révèle encore la puissance du sang de l'agneau. À chaque fois que Dieu opère quelque chose d'extraordinaire en vous, vous êtes en train de déclarer ses vertus, parce qu'encore une fois, les anges regardent. Waouh, il ne regarde plus la pornographie. C'est magnifique, il est devenu pur. Waouh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Elle ne ment plus, elle est devenue pure. Gloire à Dieu, gloire, 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 gloire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer l'intérieur de l'homme. Et ce que les êtres humains voient, ce n'est que le résultat. Et ah, mais qu'est-ce que tu as changé? Et souvent, nous voulons commencer avec l'extérieur. je vais faire attention parce que comme ça, je ne veux pas qu'ils pensent mal du chrétien. Non, au lieu de faire tellement attention, mettez-vous à genoux. Et laissez un réel changement s'opérer. Et à chaque fois qu'il s'opère quelque chose d'extraordinaire, cette personne que l'on voyait, personne ne croyait en elle. Et Dieu opère, et Dieu agit, et Dieu change, et Dieu transforme. Et cette personne se lève et commence à annoncer l'évangile. Et les anges sont encore là, waouh, tu te souviens, waouh, tu te souviens, waouh, waouh, gloire à Dieu, mais gloire à Dieu, mais gloire à Dieu. Et les mêmes démons qui l'opprimaient avant, maintenant, ils commencent à les chasser. Gloire à Dieu, gloire, 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 gloire. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Alléluia.
Que ma vie te glorifie, Seigneur. L'apôtre Paul nous exhorte à glorifier Dieu avec notre corps, avec notre esprit. Alléluia. Chaque fois que je me détourne d'un péché qui me tenait captif, les anges regardent gloire à Dieu. Et les démons baissent la tête. Ils s'en vont avec honte. Et dans les lieux spirituels, la gloire est rendue à l'Éternel. Et quand je comprends ces choses, je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit que ce soit votre ambition de plaire au Seigneur. Et donc, à chaque fois, je viens, Seigneur, je vais faire un check-up. Qu'est-ce qu'on va enlever cette fois-ci? On va voir le grand chirurgien qu'est l'Éternel, le grand médecin, dit Seigneur, sonde-moi. Regardons un peu de près. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur Boris, mais oublie-le pour l'instant. Travaille sur moi. Alléluia. Vous comprenez, ça change notre manière de fonctionner. Quand nous comprenons que nous sommes en mission sur la terre, et notre mission première, c'est de glorifier Dieu. C'est que ce que nous sommes constamment en train de devenir, nous sommes une œuvre en progrès, comme on dit en anglais, mais nous ne devons pas être constamment une catastrophe ambulante. Il y a des chrétiens des années durant, mais catastrophe sur catastrophe, il y a un temps où ça doit changer. Dites changer. Et Dieu peut travailler et régner dans les domaines qui lui étaient interdits avant. Et maintenant, il a tout le règne, il a le droit, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Nous sommes totalement en accord. Et à chaque fois que Dieu vient, il déclare quelque chose et je déclare ma décision de me soumettre. Je suis en accord avec ta volonté. Gloire, gloire, gloire. Encore un qui s'est laissé apprivoiser par le Seigneur. Alléluia. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Premièrement, parce qu'elle te fait plaisir. Pas à cause de ce que les hommes disent. Vous savez que les gens se trompent beaucoup. Il y a des choses que les gens m'ont dit, ah oui, ça c'est très bien, très très bien. Et en prière, Dieu m'a dit, c'est n'importe quoi. Je dis, mais Seigneur, le bishop Pontel a trouvé que c'était bien. Et c'est un homme de Dieu. Le prophète Pontel a trouvé que c'était bien. Et quand tu finis, Dieu répète, c'est n'importe quoi. Que ce soit mon ambition de plaire au Seigneur. Et au fur et à mesure que ces choses se produisent en moi, elles se manifestent à l'extérieur. Beaucoup de chrétiens vivent enchaînés à chaque fois qu'ils prennent une décision, si en se disant, oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Oui, mais pour que les gens du monde puissent penser que? Non, pour que Dieu puisse penser que. Alléluia. Et lorsque Dieu pense du bien, gare à celui qui n'en pense pas du bien. Il n'a rien à en dire. Que ce soit mon ambition de plaire au Seigneur. Ma mission sur la terre, c'est que dans tout ce que je suis, gloire soit rendue à l'Éternel. Et pour prendre une décision, je choisis. L'apôtre Paul avait compris quelque chose. Il a dit, j'oublie ce qui est en arrière. Il a dit, je vais vers ce qui est devant. Et je cours vers le but. Nous avons un but. Et je déclare que ça devient le sens et le centre de mon existence. Et c'est là où je commence à voir des choses en moi qui font en sorte que même des gens qui ne voulaient pas, à contre-cœur, ils sont obligés de dire, waouh, ton Dieu, quand même, hein? Je fais, ah oui. Pour manifester la gloire de Dieu. Si nous avons cette manière-là de penser, si nous avons cette manière-là de vivre, nous allons élarguer beaucoup de choses qui nous limitent. Souvent, nos artères spirituelles sont bouchées. Et nos artères sont bouchées par la rancune, par la médisance, par l'irritation, par la colère, le manque de pardon. Nos artères sont bouchées et nous venons louer le Seigneur et ça ne coule pas. Ou ça coule un petit peu parce que l'onction est grande et après c'est oh, parce que nos artères sont bouchées. Et quand je comprends ma mission sur la terre et que j'y tienne, c'est beaucoup plus important pour moi de glorifier Dieu que de me venger de Béa. C'est beaucoup plus important pour moi que Dieu me regarde, que les anges me regardent, qui commencent à célébrer l'Éternel. Beaucoup plus important pour moi que de pouvoir prouver à Cécile que c'est moi qui ai raison. Peu importe que tout le monde pense que j'ai tort. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que la louange est en train d'exploser me concernant? Et lorsque nous comprenons cette mission que nous avons d'amener la gloire à Dieu, de montrer les excellences, les vertus, d'être en quelque sorte cette chose que l'on regarde et que l'on dévisage et qui permet de voir la longueur, la largeur de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu, je change de manière de penser. Des choses qui semblent être si importantes n'ont plus d'importance. Du coup, je ne souffre plus de la maladie chronique de l'Église, de beaucoup, la petitesse d'esprit. Je commence à voir grand, à voir large, à voir ma vie comme une démonstration de la gloire de Dieu. Et lorsqu'une église locale comprend cela, leur manière de fonctionner change. La relation qu'ils ont les uns avec les autres change. Alléluia! Alléluia! Et je dois apprendre à me nourrir. La parole de Dieu nous dit de désirer le lait. Amen! Afin de grandir. Dites grandir. Prêchez un petit peu à votre voisin. Dites-lui, tu es appelé à grandir. Tu dois grandir. D'ici 6 mois, on ne devrait plus continuer à changer tes couches. Alléluia. Glory to God. Tu dois grandir. Dieu veut des gens qui décident de grandir. Si je ne grandis pas, je ne vais jamais réellement glorifier Dieu avec ma vie. Beaucoup de gens refusent de grandir. Parce qu'ils veulent constamment que les frères et sœurs soient autour, que je sois le centre d'attention. Non, je suis déjà le centre d'attention. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que je prie, Dieu me répond? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas une seule fois où je dis « Seigneur », il dit « j'ai pas le temps ». Quand je suis là, il est là. Je suis déjà le centre de l'attention. J'ai déjà toute l'attention qu'il me faut. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les myriades et les myriades d'anges. La nuée de témoins. Je décide de grandir. Je décide aussi de me juger. Dites juger. Sans complaisance. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. J'ai un objectif qui est beaucoup plus important que le fait de ne pas me sentir mal. Il y a des fois, j'ai besoin de me sentir mal parce qu'il y a des choses pas très catholiques en moi, ni évangéliques. Et je regarde Sans complaisance, il dit ça ne va pas, ça doit partir, ça ne glorifie pas le Seigneur. Si je ne laisse pas ça partir, je vais rater ma mission sur la terre. Et je viens de vous dire, je dis, Seigneur, tu m'as regardé, tu as vu. Si j'ai vu, c'est que tu as vu. Il y a ça qui ne va pas et il faut que ça change. C'est pas, oh Seigneur, tu comprends? C'est la faute de Jean-Jacques. Si elle me parlait plus souvent, je me sentirais mieux. Non, Seigneur, il y a ça, enlève, parce que je veux que ma vie soit complètement libre et qu'elle te glorifie. Sans complaisance. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Qui appartiennent à Dieu. Je veux que ma vie glorifie le Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Je me bats. Je me bats. Je me bats. Je résiste au diable. Je refuse de me laisser dominer. Je refuse de me laisser opprimer. Je refuse de laisser la tristesse me dominer. Je refuse de laisser la dépression me dominer. Je refuse de laisser quoi que ce soit me dominer. Et si toi, tu viens toujours avec des mauvaises nouvelles, je me sépare de toi. Il y a des gens qui ne se sentent bien que lorsque vous êtes malheureux. Ils vont vous dire tout ce qui ne va pas. Et tant que vous dites non, mais Dieu est grand, Dieu va faire. Ils vont dire, mais tu ne comprends pas. Et alors, ils vont embellir encore, ils vont rajouter un peu, histoire de vous toucher au point où vous allez être... Il faut savoir se préserver. Dites à votre voisin, préserve-toi, mon ami. Préserve-toi. Ces gens qui ont toujours des mauvaises nouvelles, éloigne-toi. Il est important que nous soyons des gens qui décident, qui ne permettront à rien d'entamer la gloire de Dieu dans leur vie. La première raison pour laquelle je résiste au diable, ce n'est même pas pour que je sois bien, c'est que pour que Dieu soit glorifié. Je tiens à ce que tout ce qui me concerne honore l'Éternel. Et dans la mesure où l'agneau a été immolé et qu'il a déversé son sang pour que je sois libre, je n'accepte pas d'être enchaîné. Parce que lorsque je suis enchaîné, je ne glorifie pas Dieu. Et donc, je mets un point d'honneur à tabasser le diable quand il lève la tête. Et chaque enfant de Dieu doit le comprendre et dire, nous sommes l'Église, nous sommes les rachetés, une nation sainte, une race élue, nous avons reçu autorité de Dieu. Notre mission sur la terre, c'est de glorifier Dieu. Nous n'allons pas permettre quoi que ce soit qui vienne du secteur opposé. Et au sein d'une église locale, ça doit se traduire par la prière, ça doit se traduire par le soutien, la communion fraternelle. Lorsqu'il y en a un qui vit quelque chose de difficile, les autres l'entourent et prient. Ils disent, non, Satan, tu ne vas pas avoir mon frère. Non, nous ne te le permettons pas. Non, il n'en est pas question. Non, nous faisons partie de la même communauté. Nous partageons nos vies et il n'est pas question que tu le prennes. Au lieu de cela, souvent dans nos églises, c'est « T'as vu un tel ? T'as entendu ce qui lui arrive ? Oh, il y a des gens, franchement, s'y prier un peu plus. Oh. » Vraiment. Ah, vraiment, mais... Ah, pourtant, il y a la parole. Hein. Je veux dire... C'est... Lorsque nous comprenons qu'en tant qu'assemblée, nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous participons à la mission de Dieu. De montrer les vertus, les excellences, la grandeur de Dieu sur la terre. Nous faisons tout pour que ce que nous sommes en tant que corps soit un reflet de la splendeur de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Ça m'incommode légèrement, et alors? Et si j'insiste pour avoir les choses que ça fait à ma façon, est-ce que ça va contribuer à ce que l'Église manifeste la splendeur de Dieu? Ou simplement, je vais pouvoir avoir ma place favorite le dimanche. Il faut mieux faire la tête au pasteur. Il est essentiel que chacun dans sa vie apprenne à résister au diable. À insister pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans sa vie. Il est important qu'une assemblée locale apprenne à se souder, à se serrer le coude et à crier ensemble pour que la volonté de Dieu soit manifestée au sein de cette assemblée, pour que Dieu puisse faire ce qu'il a envie de faire, pour que sa splendeur puisse être manifestée. Et vous savez, moi je prie pour que Dieu, Abba House, nous donne d'être excités par les choses de Dieu, d'être enthousiasmés par sa personne et par ses œuvres. Parce que si ils sont enthousiasmés, les anges sont enthousiasmés, c'est dire la splendeur de Dieu. Ils sont devant son trône nuit et jour, mais ils continuent à être émerveillés. Et à tellement vouloir que Dieu soit magnifié, que nous sommes prêts à tout ce qu'il faut pour que Dieu soit magnifié. Et que nous n'ayons plus cette mentalité de chariot, qui consiste à juger l'Église sur la base de « qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Qu'est-ce qu'ils font pour moi ?» Mais à nous dire dans quelle mesure est-ce qu'ensemble nous pouvons agir, fonctionner de telle sorte que ce que nous sommes va amener la gloire à Dieu. Déclarer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, nous avons obtenu miséricorde. C'est la raison pour laquelle quand je viens prier de matin, je ne me demande pas si Dieu va m'entendre. Je sais qu'il va m'entendre. Je sais non seulement qu'il va m'entendre, mais je sais qu'il m'attend déjà. Alléluia! Je sais qu'il m'attend déjà. Parce que nous avons une alliance et je fais partie de son assemblée à lui, de ceux qui lui appartiennent. Et à ceux-là, il donne une mission sur la terre, la mission de le servir, la mission de réconcilier les hommes avec lui. Et cette mission, il ne donne pas à une entité qui s'appelle Église, qui est une institution éloignée de nous autres. Il donne à chacun de nous parce que nous composons l'Église. Donc, il déclare, j'appelle Martine à être ambassadeur de Christ. Elle est en mission sur la terre. En fait, elle fait partie des services secrets. Elle fonctionne dans un rôle précis. Elle est chef d'entreprise, elle est architecte. Ça, ce n'est que l'apparence extérieure. En réalité, ce qu'elle est, c'est missionnaire. Et dans tout ce qu'elle fait dans le naturel, elle doit avoir comme intention unique d'amener la gloire à Dieu. Elle doit avoir comme objectif unique de réconcilier les hommes avec Dieu. Tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait a un seul but, servir la cause du royaume de Dieu. Parce qu'elle est étrangère sur la terre et elle n'est sur la terre que parce que Dieu lui a confié une mission. Donc, concernant les autres, les hommes, nous, il y a ce qui est de notre vie, ce qui est de la vie des autres, où nous avons un rôle à jouer. La mission que Dieu donne, c'est manifester sa gloire, c'est aussi les réconcilier avec lui. Donc, chaque homme et femme qui fait partie de l'Assemblée de Christ, partout où il est, Dieu considère qu'il a un missionnaire en place. La question est de savoir, est-ce que vous jouez votre rôle? Question, est-ce que vous jouez votre rôle? Nous avons vu que Dieu a mis dans l'Église des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes et des apôtres. Mais pas pour faire l'œuvre du ministère, mais pour former les enfants de Dieu, l'Église, à faire l'œuvre du ministère. Donc, je comprends que là où je suis, j'ai une mission. Ma mission, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Regardez avec moi dans Matthieu 28. Matthieu 28. Vous allez en comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a laissés sur la terre. Où nous sommes étrangers. Dites étrangers. Étrangers. Hey! Matthieu 28, vous y êtes? Au verset 19, quelle est la mission que Jésus confie à son Église concernant le monde? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19, allez, dites allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus est en train de parler à ses disciples, à nous. Nous avons comme mission sur la terre, en tant qu'Église, d'aller et de faire des nations des disciples, de les enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Regardez avec moi dans Marc. Marc chapitre 16, que nous connaissons par cœur. Amen. Ah, merci Seigneur, il n'y a pas de menteur dans cette église. Marc chapitre 16, au verset 15. Lisons ensemble. Allez. Encore une fois. Maintenant, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui ce qui est dit là. Et le voisin de l'autre côté, dites-lui. Résumé, va et prêche. Alléluia. Nous allons tous le dire ensemble. Va et prêche. Va et prêche. Alléluia. Au lycée? Au travail? À l'église? Au magasin? À Carrefour? Au hall pour les jeunes? Amen. Alléluia. Ils ont des jeunes de bonne famille ici. Glory to God. Allez par tout le monde et prêchez. Je veux que nous comprenions que la mission de l'Église sur la terre concernant les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est de les réconcilier avec Dieu. Et cette mission est confiée à chaque homme et chaque femme. Et lorsque nous regardons dans les actes des apôtres, ils allaient et ils prêchaient. Et les gens se convertissaient. Et nous n'avons pas beaucoup de références. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a une seule qui indique que les gens étaient convertis dans le temple. C'est très intéressant. Les chrétiens allaient dans des endroits curieux pour convertir les gens. Et ça n'a pas changé. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez dans Acte 2. Dans Acte chapitre 2. Parce qu'il y a un changement qui doit se produire dans notre manière de fonctionner. Sinon, beaucoup d'entre nous risquons de passer à côté de notre mission sur la terre. Nous aurons passé notre vie à soigner nos petits bobos. Alléluia. Et les petits bobos, nous en avons beaucoup. Plus nous les soignons, plus il y en a. Vous n'avez pas remarqué que depuis que vous êtes chrétien, vous en avez constamment des petits bobos. Prie pour moi parce qu'on prie, c'est fini. Prie pour moi parce qu'on prie, c'est fini. Il y a toujours des petits bobos. Et il y a des personnes qui attendent que tous leurs bobos soient soignés avant de commencer à réconcilier les hommes avec Dieu. Vous savez, un jour, nous allons devoir dire au Seigneur si nous avons fait ou pas ce qu'il nous a dit de faire. Si je comprends que c'est cela la mission de l'Église, si je ne la fais pas, j'aurais raté la raison pour laquelle j'étais sur la terre. Alors, Actes chapitre 2. C'est le jour de la Pentecôte. Ils sont sortis dans la rue et ils ont commencé à prêcher. Et au verset 14, Pierre a commencé à parler. Et les gens se sont convertis. Mais ils n'étaient pas à l'église. Il était à l'extérieur. Dans Actes chapitre 8. Il y a Philippe qui est allé en Samarie pour prêcher. Il ne nous a pas dit qu'il était allé dans un lieu de culte. Comment? Oui, mais il n'est pas allé dans un lieu de culte. Il est allé dans la ville. Il a commencé à prêcher. Et les gens étaient convertis. Et le même Philippe, il est parti. Un ange lui a dit d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza au verset 26. Sur le chemin, il a rencontré l'eunuque éthiopien. Il lui a prêché l'évangile. Il est descendu de sa Mercedes. Et il est parti. Et après, ils sont allés dans les synagogues. À chaque fois qu'ils arrivaient dans une ville, on les accueillait dans les synagogues et ils prêchaient. Après, ils étaient jetés dehors. Certains acceptaient, certains n'acceptaient pas. Et il nous a dit, par exemple, que Paul avait loué une salle. Et là, il enseignait les chrétiens. Et ils avaient des assemblées où ils enseignaient. Mais les chrétiens sortaient et ils rencontraient les gens où qu'ils soient. Et cette mentalité doit revenir dans l'Église. Où nous amenons l'Évangile, où sont les gens? Chacun, nous passons nos semaines avec les gens. Nous essayons de leur tordre le cou pour qu'ils viennent à l'Église. Mais est-ce que vous savez que c'est beaucoup plus efficace de leur annoncer l'Évangile là où ils sont? De les gagner à Christ là où ils sont? Bien entendu, les inviter à l'Église. Il y a des gens qui invitent des amis à l'Église et qui regardent, qui guettent chaque mot que dit le pasteur. Dès que vous dites quelque chose, oh, ils ne vont pas accepter ça, oh, ils vont être fâchés, oh, ils ne vont plus revenir. Mais pasteur, vous n'auriez pas dû dire ça. Non, je ne suis pas là pour faire plaisir à ton ami. Je suis là pour annoncer l'Évangile. Si toi, tu l'avais converti avant de l'amener. Alors chacun amène ses amis non convertis à qui il n'a pas du tout parlé de Jésus. Et il y en a un qui veut que le pasteur parle de la rédemption, c'est surtout qu'elle ne parle pas de la rédemption. Et une autre derrière, surtout qu'elle ne parle pas du fait que certains vont aller en enfer, surtout qu'elle parle de l'enfer. Ah, surtout qu'elle ne parle pas de la louange parce qu'il n'aime pas la louange. Surtout qu'elle parle de louange parce qu'il aime la louange. Vous êtes là, vous essayez de prêcher, vous sentez tout ça. Amen, alléluia. Et ça, oh, c'était pas puissant aujourd'hui, vraiment. Oh, il faut prier pour le pasteur, c'est la période de l'onction. Va et prêche. 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 Au travail, prêche. À l'église aussi, prêche. Alléluia. À la maison,
prêche.
À Franprix,
prêche.
Dans le métro,
prêche.
Dans le bus,
prêche.
Va et
prêche.
À Montparnasse,
prêche.
Sur le quai de la gare,
prêche.
Alléluia. Dans les trains de banlieue, par exemple, on a du temps pour prêcher. Que vous mettez dans un train les gens qui vont à Rambouillet. C'est loin, Rambouillet, ils n'arrivent pas tout de suite. Le mandat, la mission de l'Église, c'est d'aller et de prêcher. Alors, il y en a qui sont... Ah oui, il y en a qui attendent, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Dès que vous dites, viens à l'Église, oui, 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 oui. Il y en a, il faut les appeler cinq fois, viens. Oui, oui, mais, vous prêchez. Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Vous avez reçu la puissance de Dieu. Nous avons fait quelque chose dans l'église qui n'est pas normal. Nous avons mis en place un groupe de personnes. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent prêcher. Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Et là où vous êtes, quand vous faites confiance au Seigneur, il vous dira ce que vous devez dire. Il vous révélera des choses par son esprit. Vous allez vous entendre dire des choses. Et la personne va dire, mais comment tu savais ça? Mais ça, c'est justement ce avec quoi je me débat. Le Saint-Esprit vous montre quand vous êtes disposé à faire. Alléluia! Glory to God! Dieu nous envoie, Jésus nous envoie, Jésus envoie son Église, la mission de l'Église. Nous sommes étrangers sur la terre. Si nous sommes étrangers, quand même, Seigneur, laisse-nous venir à la maison. Il dit, non, ne venez pas encore. D'abord, vous allez me rendre gloire sur la terre. D'abord, vous allez réconcilier les hommes avec moi. D'abord, vous irez sur les chemins. Vous irez dans les maisons. Vous irez au cours du déjeuner chez des amis. Vous allez prêcher. Vous allez les réconcilier avec moi. Vous allez me servir d'ambassadeur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Et lorsque nous avons prêché, nous allons aussi nous en occuper. Thank you, Jesus. Est-ce que vous savez que si vous passez votre vie à soigner votre petit bobo, vous n'êtes jamais apte à soigner les bobos de quelqu'un d'autre? Et quand les gens sortent du monde et qu'ils viennent à Christ, ils en ont beaucoup des bobos. Ils ne comprennent rien. Mais pourquoi vous chantez? C'est trop long, c'est trop court, c'est trop... Mais il faut être là, à côté. Non, pas pour dire, mais t'as raison, effectivement, c'est trop long. Ah oui, c'est vrai qu'elle chante faux. Et elle chante faux. Et est-ce que ça change quelque chose à la gloire de Dieu? Les nourrir. Jésus nous dit que nous devons leur montrer. Je vais relire le passage. Matthieu 24. Leur enseigner. À observer. Enseigner. À observer. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Souvent, nous amenons les gens à Christ et l'Église abandonne sa mission. Elle ne s'en occupe plus pour les enseigner. Enseigner dans les petits groupes, enseigner au cours d'un déjeuner, enseigner au cours d'un repas au McDo, enseigner au cours d'un dîner, à observer. Nous déléguons l'enseignement de l'observation de la parole de Dieu uniquement aux cinq ministères. Ce n'est pas normal. Alléluia. Là où vous êtes dans vos maisons, pendant que vous êtes en train de parler de quelque chose, c'est l'occasion d'enseigner. C'est l'occasion d'encourager. C'est l'occasion de partager, d'expliquer le pourquoi et le comment des choses. Les gens viennent, moi je suis venue au Seigneur, je ne comprenais rien, à rien, j'étais en désaccord avec tout. Et Dieu m'a fait grâce, m'a donné des gens qui m'ont supporté. Et qui m'ont écouté critiquer tout. Oui, 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 mais tu sais, la parole de Dieu dit, je vais te montrer. Oui, mais regarde, la parole de Dieu dit ceci, ceci. Oui, effectivement. C'est la parole de Dieu, le Dieu. Oui, mais tu sais, la parole de Dieu. Bon, d'accord. Progressivement. Alléluia. Nourrir, veiller sur eux. Ensuite, les prier pour eux. L'apôtre Paul dit, mes petits enfants, pour qui je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La mission de l'Église sur la terre, réconcilier les hommes avec Dieu, les amener à ce que Christ soit formé en eux. Les amener au point où ils deviennent des passionnés de Dieu. Des amoureux de Jésus. Ce qui veut dire que nous avons toujours longtemps. Alléluia! Parce que Dieu va nous demander ce que nous en faisons de ces gens. Et je suis émerveillée que Dieu nous responsabilise. Il nous responsabilise. L'apôtre Paul parle du fait qu'il m'a trouvé digne et m'a confié l'évangile. Et c'est extraordinaire parce qu'il nous a confié l'évangile. Oh, beaucoup d'entre nous voulons rester dans cette mentalité où je viens simplement me servir. It's all about me. Toute la prédication dit « It's all about me ». Les chants, tout doit m'agréer. It's all about me. Tous les programmes, il y a ça, it's all about me. Mais Dieu nous a responsabilisés. Et regarde ceux qui aiment ce que lui aime. Et Dieu aime voir les gens sauvés. Dieu aime voir les gens guérir. Dieu aime voir les gens délivrés. Et là où vous commencez à comprendre ce que Dieu a mis en vous, c'est lorsque vous commencez à vous avancer pour participer comme l'église de Philippe qui a été tellement chère au cœur de l'apôtre Paul qu'il est remercié de la part qu'il prenait à l'évangile. Certaines traductions disent de votre partenariat dans l'évangile. Et même de sa prison, il parlait du fait que cela a servi au progrès de l'évangile. Dieu nous demande d'agir pour le progrès de l'évangile. Disons progrès de l'évangile. Nous sommes appelés chacun, c'est notre mission sur la terre, d'assurer le progrès de l'évangile. Être pris, que cela nous saisisse, que cela nous prenne les tripes, que l'évangile soit annoncé, que l'évangile soit compris, que cela nous touche profondément. Est-ce que vous comprenez que lorsque vous êtes quelque part, ce que vous demandez, c'est pas, c'est où les meilleurs restos ici? Vous acceptez la carte bleue? Mais vous arrivez quelque part, vous voulez savoir quel est l'état spirituel de cette ville. Est-ce que les gens aiment le Seigneur ici? Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Quel est l'état des églises ici? Et vous rencontrez des gens, vous cherchez des chrétiens. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Vous êtes là, vous voulez participer au progrès de l'évangile. C'est tout un changement de mentalité. Vous arrivez dans une, vous allez en vacances quelque part, c'est pas, ouais, la plage, vamos a la playa, oh, 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 oh. Mais pendant que vous allez à la playa, regardez autour de vous. Quel est l'état spirituel de cet endroit? Est-ce que Jésus est honoré ici? Est-ce que l'évangile avance ici? Et pendant que vous êtes là, vous dites, Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose? Comment je peux prier? Comment je peux contribuer au progrès de l'évangile ici? Et je voyage, chaque fois que je vais dans une ville, je me mets à marcher dans la rue, à prier, à appeler le règne de Dieu, à appeler la domination de Dieu, à déclarer que la puissance de Dieu sera vue, sera manifestée dans cet endroit, à regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette ville? Qu'est-ce que je peux faire pendant que je suis là? Et Dieu va vous connecter avec des gens. J'ai reçu un mail hier d'une collègue de travail que j'avais rencontrée, je vous en ai parlé, à Moscou, pour tout vous dire. Et j'ai découvert qu'elle était chrétienne parce que j'ai dit quelque chose et par sa réaction, on a commencé à parler, je l'ai un peu exhortée. Et c'est quelqu'un de très, mais j'aime cette femme. Mais on n'a pas pu parler longtemps. Et j'ai reçu un mail d'elle qui elle me dit, mais j'en peux plus de juste vivre comme ça. Moi, je veux plus de Dieu. Et j'ai dit, wow, Seigneur, je veux continuer la conversation qu'on a commencée. J'étais contente. Yes! Des gens qui veulent voir le progrès de l'évangile. C'est ça qui doit nous tenir à cœur. Est-ce que vous comprenez que lorsque nos préoccupations deviennent identiques aux préoccupations de Dieu, nos vies changent? Beaucoup d'entre nous, c'est le Seigneur dit, voilà ce que je veux. Oui, mais moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, hein? Le progrès de l'évangile. Lisez l'épître aux Philippiens. Nous avons fait une étude sur l'épître aux Philippiens. Il faut peut-être en refaire une autre.
Amen.
Parce que cette église a touché le cœur de l'apôtre par son dévouement pour le Seigneur. C'est la seule vie qui vaut d'être vécue. Cette vie où notre cœur bat pour le royaume de Dieu. Vous relativisez vite vos petits bobos. Mais vite! Et vous vous rendez compte, je disais à quelqu'un, tu sais, la vie, dans la vie, tu auras toujours des problèmes. Et tout l'art de vivre, c'est savoir les surmonter. Comme on dit en anglais, without missing a beat. Tu les surmontes sans être nullement déstabilisé. Tu continues sur ton chemin, tu continues. Et tu les surmontes, et tu continues, tu surmontes, et tu continues. Certains, ils vont faire une pause pour surmonter leurs difficultés présentes. Disparaissent de la scène. Le monde entier peut aller en enfer. Pendant que je règle le problème qui est à mes orteils. Je suis étonnée de ce que l'église entière ne soit pas obsédée par mes orteils. Je décide que ce pasteur n'a pas de compassion parce qu'il ne passe pas son temps à prier pour mes orteils. Nous sommes vraiment plus bénis en donnant qu'en recevant. Et quand l'ennemi vient vous dire que va soigner tes bobos, tu dis non, Dieu soigne mes bobos. Moi, je vais soigner les âmes. Et pendant que vous soignez les âmes, vous retenez, mais où sont les bobos? Ils sont disparus. Ils sont partis. Alléluia. Ah oui, elle a un témoignage. Glory to God. C'est vrai. Ah, de la bouche des bébés. Glory to God. Woo! Thank you, Jesus. Dans l'épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul félicite cette église et parle d'eux comme un exemple. Dites exemple. Chacun de vous ici présent a reçu de quoi être un exemple. La mission de l'Église, de chaque individu, c'est d'être un exemple pour des gens qui viennent au Seigneur. Que lorsque les gens vous imitent, ils soient en train de faire la volonté de Dieu. Que si les gens font comme vous faites, ils peuvent être sûrs qu'ils sont en train de plaire au Seigneur. Et les Thessaloniciens ont reçu l'évangile au milieu de persécutions. Il n'y a que dans notre génération où nous avons comme cette idée erronée que l'évangile, nous ne pouvons y prêter notre attention que lorsque tout va bien. Au milieu des persécutions, ils ont reçu l'évangile. Ils sont devenus fervents. Il dit donc que vous êtes devenus un exemple. Et lorsque nous voulons vraiment accomplir notre mission, nous devons comprendre que nous sommes censés être un exemple. Si les gens regardent votre vie de prière et font comme vous, qu'en sera-t-il de leur vie? Lorsque les nouveaux convertis font comme vous faites, exactement comme vous faites à l'église, qu'en sera-t-il de leur vie? Nous sommes censés être un exemple. J'étais frappée un jour, il y a de longues années de cela, le jour de l'an. Le matin, j'étais seule chez moi, je priais. Et j'avais l'habitude de me poser devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis cette année? Et moi qui me voyais comme une petite jeune, qui aime Jésus, alléluia. Et le Seigneur m'a dit, je veux faire de toi un exemple. J'ai dit, quoi? Un exemple? Un exemple? Un exemple? Je te bénis, je vais t'enrichir, j'ai une grosse voiture. Je suis très spirituel, mais un exemple. Mmh. en exemple. Donc, quand j'ai lu que les Thessaloniciens étaient en exemple, je dis, oh, Seigneur, je suis en bonne compagnie, je vais être en exemple. Que les gens puissent imiter ma foi et faire plaisir à Dieu. L'apôtre Paul a osé dire, imitez-moi. Imitez-moi. Si nous voulons réellement accomplir notre mission sur la terre, nous devons être et vivre de telle sorte que les gens que nous amenons au Seigneur puissent nous imiter en toutes choses. Notre manière de prier, notre manière de louer le Seigneur, notre manière d'accomplir nos tâches dans le royaume de Dieu. Que quand les gens arrivent à Bauhaus et voient notre manière d'être, ça les inspire à aller plus loin avec Dieu. Ou bien ils voient certains, ils voient d'autres qui disent, oh ben tu sais, non, il faut y aller mollo mollo. Il faut être cool. Je dis Dieu, je n'en demande pas tant que ça. Si vous saviez ce que Dieu demandait, vous seriez étonné. Un exemple, une communauté d'amour, une communauté de foi, une communauté, des gens qui s'aiment, des gens qui se portent et qui se supportent. Alléluia! Pourquoi tu l'as regardé? Des gens qui se supportent. Thank you, Jesus!